nous sommes lundi 24 mars, il est 18h38 sur Radio Campus Paris. Il est 18h, ben c'est toujours l'heure de la relève. Alors normalement il y a un générique qui part. Et il va. Et si par pas je chante, et ça c'est une menace qui normalement devrait avoir un petit effet. Bon, c'est pas grave. Radio Campus, vous le savez, c'est votre quinzomadaire radiophonique numérique préféré, comme un lundi sur de la relève. C'est une demi-heure consacrée aux nouveaux talents. Et ce soir, on va parler de révolution et d'arnaque sentimentale. Mon invité est romancière, mais avant de commencer, que seriez-vous prêt à faire pour préserver votre emploi si votre liberté en dépendait? C'est bien malgré lui la question à laquelle doit répondre Émile. Il va enfin pouvoir retrouver sa famille grâce à un aménagement de peine, car Émile est en prison. Alors quand il arrive dans l'usine qui doit l'employer, il faut que ça marche, sa liberté en dépend. Or justement, l'actionnaire de cette usine a décidé de fermer le site de production. Émile va tout, vraiment tout tenter pour réussir à garder l'usine ouverte, mais il va falloir faire, avec les intérêts des uns et des autres, jouer avec un actionnaire bien décidé à se débarrasser de l'usine, quoi qu'il en coûte. Des politiques pas vraiment à la hauteur, ou disons des politiques qui ont leur agenda, qui n'est pas celui des salariés, qui d'ailleurs n'ont pas tous le même agenda. Je ne vous parle pas d'un reportage que j'aurais vu au JT, mais bien d'une pièce de théâtre qui est en train d'être créée au théâtre de Belleville à Paris. On y retrouve Paul-Éloi Forget et Samuel Valenzi à l'écriture, à la mise en scène et sur scène. Et on n'est pas peu fiers de les avoir invités pour leur première pièce. Alors, il y a quelques années maintenant, ça s'appelait « L'inversion de la courbe ». Depuis, ils ont fait un sacré bout de chemin avec le succès de Coupure qui a tourné pendant plusieurs années dans toute la France. Avec Made in France, on retrouve sans défaut tout ce qu'on aime dans leur théâtre. Leur aide à se saisir de vraies questions politiques pour en faire des sujets de comédie intelligente, car on rit beaucoup à Made in France. Parmi les bonnes idées de ce spectacle, on citera la présence sur scène, outre une excellente distribution, d'une joueuse de batterie d'instruments de musique pour signifier l'usine, le travail, les hommes et les femmes en colère. Oui, les femmes en colère, il y avait bien une liaison. Il faudrait citer toute la distribution, qui est formidable. Ça s'appelle Made in France, c'est au théâtre de Belleville à Paris. C'est du mercredi au samedi jusqu'au 29 avril, et pour les moins de 26 ans, ça coûte seulement 12 euros. Alors, est-ce que la virgule part? Rien ne part ce soir? Si. Super, j'ai pu reprendre mon souffle. Bonsoir Ajar Hazel.
Bonsoir.
Merci, vous êtes avec nous à distance. Vous êtes l'autrice du Sens de la fuite aux éditions Gallimard. C'est votre deuxième roman après L'envers de l'été qui avait paru en 2021. Aux mêmes éditions Gallimard, en préparant cette émission, j'ai appris que vous aviez participé à Paris Alexandrie sur Radio Campus Paris. Alors forcément, j'ai envie de vous demander de quoi il s'agissait.
Alors, merci beaucoup pour l'invitation et puis je suis heureuse aussi d'avoir entendu parler de Samuel Valenzi parce qu'on a eu la même formation, on a fait la même école et beaucoup de travail. Donc il y a beaucoup de liens. et concernant Paris-Alexandrie, c'était une émission qu'on animait avec un média que j'ai dirigé pendant 7 ans avec toute une équipe à Beyrouth, au Maroc, un peu partout autour de la Méditerranée. Et c'était vraiment une aventure magnifique où on donnait à écouter justement des artistes émergents de la région.
Alors, pour information, c'était une sorte de relève dans le monde arabe.
Exactement, c'est ça.
Pour information, je sais pas que je vais tout ramener à moi, hein, rassurez-vous. C'était juste un petit clin d'œil. Et je voudrais juste dire que pour information, pour les gens qui s'intéressent, on peut retrouver toutes les émissions sur le site de radiocampusparis.org en tapant Paris Alexandrie, par exemple, dans un moteur de recherche. Précisez quand même Paris Alexandrie plus Radio Campus Paris, vous êtes sûr de le retrouver. Allez, on en revient à votre roman Le sens de la fuite chez Gallimard avant de rentrer dans l'histoire. Est-ce que vous pensez, vous, que l'humanité se divise entre ceux qui partent et ceux qui restent? Oui, je sais, comme ça, à 18h04.
Non, mais parce que c'est une obsession chez moi, je crois, cette question du mouvement et du déplacement. Et je ne sais pas si c'est forcément aussi circonscrit, mais en tout cas, en nous, il y a ces deux personnes. Il y a un besoin de partir parfois pour aller voir ailleurs si on y est et peut-être pour se retrouver et s'ancrer à nouveau. Et je crois que ces départs-là, ils nous forgent. Et en tout cas, moi, chez moi, ils sont très importants. Et je les chéris, on va dire.
On peut vous demander d'où vous êtes partie, vous?
Moi, j'ai grandi au Maroc, à Rabat. Et je suis arrivée à Paris à 17 ans pour poursuivre mes études. Et après ça, j'ai eu pas mal d'autres départs vers... le Texas à un moment, l'Iran, partout autour de la Méditerranée, enfin, dès que je peux, voilà, et que j'en ai les moyens, parce que ce n'est pas toujours possible, mais quand on a. Puis le passeport qui va avec aussi, parce que évidemment, il y a plein de pays qui ne m'étaient pas accessibles, notamment avec ma nationalité marocaine. J'ai le sens de la fuite, ça, c'est sûr.
On y reviendra plus tard, mais dans votre livre, il y a aussi ceux qui restent, qui sont aussi des personnages intéressants, ceux qui peut-être ont trouvé l'endroit où ils veulent aller, ou peut-être qu'ils y sont bloqués, on ne sait pas encore. Mais Alice, donc, qui est le personnage principal, elle veut devenir journaliste, et elle va aller à Beyrouth au début des années 2000, puis en Égypte au moment des printemps arabes. Qu'est-ce qui la motive ?
Alice, c'est un personnage qui est assez complexe, qui ne sait pas toujours en fait, les raisons de ses choix, mais qui est qui est saisie par une forme d'appel du départ et au moment où en tout cas elle décide d'aller au Liban puis ensuite en Égypte sans rédaction, c'est vraiment l'espèce d'identification à cette jeunesse révoltée et elle sait pas plus de choses que ça au fond et peut-être la deuxième chose c'est qu'elle a ce père qui est décédé à ses 15 ans qui lui a qui est un père assez taiseux, qui lui a à la fois légué beaucoup de livres, mais en même temps qui ne lui a pas transmis forcément oralement beaucoup de choses. Et donc il y a ce mystère de ce père aussi, qui quelque part se cache aussi derrière ses choix.
Un père qui vient d'Algérie.
Oui, exactement, un père qui vient d'Algérie et qui était éditeur. Donc évidemment, un rapport aux livres et notamment aux livres anciens. C'est un grand bibliophile. Et j'aimais bien, en fait, moi j'aime bien me demander aussi comment est-ce qu'on ne nous transmet pas. Nous pousse à agir. Et ça paraît paradoxal, souvent on s'en plaint, et en réalité c'est aussi un vrai moteur. Et ce personnage-là, il est vraiment mu par ça, en fait. Il agit d'abord, Alice agit d'abord, et ensuite, c'est par ses fuites que petit à petit, elle arrive à comprendre ce qui la motive au fond, et des sources intimes, en fait, de son besoin de partir.
Vous avez choisi de faire un personnage principal, donc Alice qui est journaliste. Qu'est-ce qui vous intéressait? C'était d'avoir quelqu'un qui était d'abord un œil pour témoigner, quelqu'un qui veut comprendre le monde, qui veut le voir et le raconter?
Oui, en fait, ce qui m'a passionnée dans le choix, enfin, dans le journalisme, dans le choix aussi de grands reporters et journalistes de guerre, c'est que j'ai découvert en fait ce métier en 2019, donc au moment où j'ai commencé le livre, bien avant les guerres qui aujourd'hui déchirent le monde. Et c'est vrai que ça m'a vraiment interpellée les personnalités qui décident de choisir ce métier. C'est quelque chose que je trouvais assez fou d'aller à un endroit que les gens quittent, notamment, surtout en temps de guerre ou même parfois dans des épisodes de révolution où il y a forcément des moments difficiles, des émeutes, des moments d'incertitude. Donc il y a vraiment d'abord cette pulsion un peu de vie et cette envie d'aller à des endroits où il y a des risques. Le deuxième aspect, c'est justement jusqu'où on va. Et c'est là que, en tant que romancière, je trouve que c'est une question qui est passionnante, c'est de prendre des personnages qui nous amènent à poser des questions peut-être philosophiques, mais à les déployer de façon concrète. Et Alice, elle est vraiment tiraillée par ce besoin d'aller au plus proche du jaillissement de l'information. Donc, elle va par exemple couvrir une émeute pendant la Révolution, un moment où la Révolution
Égyptienne.
voilà, se durcit. Et
On est
elle
place très.
reste, elle reste jusqu'à enfin, souffrir et se blesser. Mais parce qu'elle veut rapporter l'information telle qu'elle est. Puis ensuite, elle est tiraillée par la culpabilité d'avoir été à côté de gens qui sont morts. Et moi, ces moments-là, en fait, où on décide que c'est bon, on a ce qu'il faut, ou on n'a pas ce qu'il faut, c'est des moments que je trouve extrêmement intéressants parce qu'ils sont pleins de contradictions, pleins de dilemmes. Et donc, c'est évidemment très fécond pour la romancière que je suis.
Vous pensez que c'est des questions que tout le monde se pose, même les gens qui ne sont pas journalistes, de savoir à quel moment on a ce qu'il faut ou à quel moment on s'arrête?
Je pense que oui, je pense que c'est. En fait, ça pose la question de l'engagement de façon générale. Et la question de l'éthique aussi. Qu'est-ce qui fait une information juste? Comment être conscient de son propre positionnement? Et moi, c'est des questions que je trouve on se pose tous et toutes. Et évidemment aussi quand on est romancière. Donc, c'est aussi un miroir à ma propre position d'écriture, d'essayer d'avoir des personnages qui questionnent eux-mêmes ce qu'ils écrivent. Donc, c'est pour ça que le journalisme était une forme d'alias qui était extrêmement intéressant et qui, effectivement, au vu de l'actualité d'aujourd'hui, se pose de façon brûlante. Puisque, par exemple, très factuellement aujourd'hui, les journalistes ne peuvent pas se rendre à Gaza. Gaza est fermée. Donc, comment, en fait, la manière dont on raconte ce qui s'y passe est forcément biaisée par des informations aussi factuelles que qui peut y aller, qui peut pas y aller. Et je trouve ça à la fois passionnant et important, en fait, de pouvoir en parler.
Je lis tout dans les livres, moi, même les remerciements. Et alors, j'ai vu que vous remerciez les grands porteurs, vous en avez parlé à l'instant. Est-ce que c'est un métier qui vous aurait plu?
Alors oui, c'est vrai que c'est un métier qui m'aurait plu, je pense. J'ai fait du journalisme culturel et puis j'ai été, enfin, de l'autre côté aussi, puisqu'ayant grandi au Maroc, j'ai aussi le point de vue des gens justement qui ne partent, enfin, qui viennent, qui voient débarquer ce type de journaliste. Et puis c'est vrai que ce qui m'a intéressé aussi, c'est que finalement, ces journalistes dépendent aussi des pays qui les envoient, puisque par exemple au Maroc, ça n'existe pas ce métier. Parce que les rédactions n'ont pas forcément les moyens d'envoyer, ou c'est exceptionnel, des grands reporters dans d'autres pays que le Maroc. Et donc il y a forcément aussi cette histoire de la narration, la narration des pays qui ont les moyens de raconter à leurs lecteurs, puisque du coup les grands reporters, ils écrivent pour des lecteurs français. Donc forcément, il y a aussi cet agenda qui est celui d'un lectorat français. Et puis de l'autre côté, l'autre personnage important de mon roman, c'est Bassem. C'est un journaliste qui devient fixeur aussi, qui est fixeur pour Alice. Et c'est vrai que c'est une facette du journalisme qui m'intéresse énormément, ceux qui sont sur place. Et ce qui m'intéresse, c'est toujours de croiser les regards de ceux qui partent et ceux qui restent, comme vous l'avez très justement remarqué.
Alors Alice, elle a une obsession, c'est d'écrire de façon juste, de ne pas en faire trop, pas assez, de trouver le bon ton, les bons mots. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous obsède quand vous écrivez?
Oui, c'est complètement le miroir de ces obsessions-là. Et je pense aussi qu'il y a ce que je n'ai pas encore dit, c'est aussi le moment en fait, duquel je parle, donc, qui est le 2011, qui est le printemps arabe, qui est un moment où moi j'étais jeune, j'avais 18 ans, donc je n'ai pas pu vivre ce moment. Et en quelque sorte, l'autre chose que je voulais faire, c'est de le revivre, ce moment, en m'y plongeant, en me documentant et en le vivant à travers le personnage d'Alice. Et c'est vrai que ça a été passionnant pour moi et j'espère pour les lecteurs aussi d'essayer d'avoir une forme d'immersion dans ce moment de révolution qui, moi, je pense qu'on balaie parfois un peu trop vite d'un revers de la main, alors que quand on voit qu'aujourd'hui en Syrie, Bachar al-Assad est parti du fait de la révolution populaire syrienne, je pense que on doit se méfier de ces sentences vis-à-vis des révolutions. Et d'ailleurs, les parties de mon roman, c'est un petit peu ce message qu'elles tissent, c'est que même lorsque les rêves sont révolus, les révolutions se poursuivent. Alors, elles n'ont pas forcément le visage qu'on imagine, elles ne sont pas parfois aussi grandioses, aussi spectaculaires qu'on le pense, mais ce sont de petites révolutions qui continuent à faire leur chemin dans les cœurs et dans les âmes des gens qui les ont vécues.
Oui, il y a des révolutions intimes, il y a les révolutions politiques, mais il y a aussi des révolutions intimes que vivent certains personnages.
Oui, complètement, et je voulais vraiment croiser les deux pour illustrer aussi comment les révolutions peuvent se vivre de l'intérieur. Et oui, en fait, tous mes personnages vivent d'une révolution dans le sens géométrique, dans le sens spatial, mais aussi dans le sens intime. Et je tenais aussi à ce que le personnage d'Alice, par ses doutes, permette de donner une place à des révolutionnaires qui peuvent être autant des mères de famille apparemment ordinaires, il faut vraiment se méfier des mères de famille ordinaires, et puis un sans-papier qui est mu par une forme de révolte, de rage aussi, qui est un ultra de club de foot. Donc c'est aussi un moyen de, à la fois effectivement raconter des révolutions intimes, mais aussi faire de la place aux cultures populaires. Donc il y a beaucoup de musique, il y a du foot, il y a des ultras, et tout
Oui,
ça, c'est
alors
quelque chose qui me nourrit.
ça c'est quelque chose de vrai ce que vous racontez sur les ultras, parce que moi j'ai découvert qu'ils prenaient le nom du club de foot, enfin, ils prenaient le nom du club de foot de la ville où ils aimeraient vivre.
Oui,
Je ne sais pas si j'ai
exactement.
bien dit
En
oui.
fait, qu'ils aimeraient vivre, ou même qu'ils aiment. Là, en l'occurrence, le personnage, c'est effectivement des gens qui ont fini par vouloir aller dans ces villes. Mais même sans forcément y aller, c'est vrai que dans mon roman, il y a un personnage qui s'appelle Ilyas Paname, qui est ami avec Imad Milano et Amine Dortmund. Et c'est des vraies personnes que j'ai rencontrées en me documentant. Et je trouvais que c'était chouette de faire aussi un hommage à cette culture d'ultra qui, surtout en Afrique du Nord, est une culture extrêmement populaire et virale en fait. Et c'est vrai qu'en Europe, ça s'est un peu perdu, enfin, c'est peut-être moins viral, moins connu et connoté très hooligans, alors qu'en Afrique du Nord, c'est vraiment une culture populaire que même les mères de famille chantent, justement.
Juste pour revenir un tout petit peu sur ce que vous racontez, sur ce que vous disiez, pardon, juste avant, sur cette nécessité, sur cette obsession d'Alice de trouver le mot juste. Vous, justement, quand vous arrivez presque 10 ans, enfin oui, presque 10 ans après, comment on fait pour retrouver la justesse? Comment vous avez travaillé sur ces événements? Est-ce que vous avez interviewé des gens? Est-ce que vous avez tout regardé sur des sites internet, des images de l'époque? Comment vous avez fait?
Oui, en fait, c'est vrai que il y a eu un grand travail de documentation dans lequel on peut se perdre. D'ailleurs, c'est tellement c'est jouissif de juste apprendre des choses. J'ai effectivement à la fois rencontré des grands reporters qui ont été notamment dans les pays que je décris au moment où je les, au moment où je décris aussi les événements. Donc ça, c'était extrêmement précieux. J'ai lu des livres qu'ils ont écrits. Je me suis aussi beaucoup documentée sur le journalisme en soi parce que c'est quand même ça que je voulais raconter dans mon roman aussi, c'est cette question du grand reporter. Qui sont-ils? Quelles sont leurs blessures? Voilà, et tout en sachant que c'est évidemment des parcours singuliers et que ça, on ne peut pas généraliser. Et puis oui, en fait, c'est assez drôle aussi parce que ce sont des choses en fait que j'ai écoutées aussi à l'époque. La première chanson qui ouvre le livre de Yasmine Hamdan, au Liban, c'est des musiques qu'on écoutait à l'époque. Donc c'était aussi une manière de, ouais,
Get
de un
it
petit
right,
peu
ça s'appelle.
revenir.
Ça s'appelle
Get
Get it
it right,
right.
exactement, exactement.
Pardon. Mais vous écrivez à un moment, alors, elle a cru que le journalisme, c'était ça, entrer en profondeur dans un sujet jusqu'à l'obsession. Oui, mais il faut en savoir en sortir au bon moment. Ah oui, c'est quoi le bon moment? C'est quoi le bon niveau d'implication? Il fallait couvrir, courir et vite. Je suis me demandé si vous parliez pas de vous à ce moment-là. Est-ce que vous aussi, vous étiez cette envie d'entrer en profondeur dans un sujet jusqu'à l'obsession quand vous commencez un roman?
Ah, complètement, oui, c'est. En fait, pour un roman, en plus, ça se justifie parce que bah, c'est un format long qui prend du temps. Là, c'est 5 ans de travail par intermittence, etc. Mais c'est vrai que pour le journalisme, ce qui m'a intéressée et ce que j'ai aussi eu comme discussion avec des différents journalistes que j'ai interviewés, c'est qu'on ne peut pas faire ça. C'est bien ça le problème, c'est que. Qu'est-ce qu'on fait des gens qu'on a interviewés, qu'on a vus dans des situations de grande précarité? Est-ce qu'on peut les oublier? Est-ce qu'on peut vraiment passer à autre chose? Et c'est pour ça que ça me paraissait intéressant, c'est parce qu'en même temps, quand on est dans l'actualité, c'est évident qu'à un moment, il faut aussi reprendre d'une forme de distance. Et quand on est sensible, et mon personnage l'est, et ben, c'est plus difficile. Et puis, en fait, j'ai aussi beaucoup écouté une journaliste, j'aimerais lui rendre un hommage, Marine Vlaovic, qui est décédée il n'y a pas longtemps. Et qui notamment a fait un podcast qui s'appelle Carnet de correspondante. Et elle, on voit bien chez elle qu'il y a cette difficulté à s'extraire de son sujet parce qu'elle se sent en fait responsable aussi. Et voilà, moi, je trouve que c'est pour ces personnes, ces témoignages-là sont bouleversants, d'autant plus pour un métier qui est un métier de terrain où on rencontre des gens en chair et en os qui vivent des choses difficiles.
Alors moi, je ne fais pas toujours attention au temps, là, c'est typiquement le cas. Je ne voulais pas qu'on passe trop de temps à parler de la guerre parce que c'est finalement un tiers du roman. Il y a toute une suite après, donc il ne faut peut-être pas trop parler avec cette rencontre à Paris d'un garçon qui s'appelle Iliès, qui va au bout d'un moment chercher sa mère et qui va l'amener à partir. Mais je n'ai pas trop envie d'en dire plus parce qu'il faut qu'il y ait le plaisir de la découverte aussi quand on lit un livre. Je voulais quand même vous demander, au début du livre, il y a une citation d'Isabelle Eberhardt et Alice lit cet auteur. Vous, quels sont les auteurs que vous aimez? Quels sont ceux que vous avez peut-être relus pendant que vous écriviez ce livre parce que vous vouliez voir comment ils avaient peut-être abordé ce thème du reportage? Moi, j'ai pensé à Kessel, à cette génération-là. Mais vous, qui sont les auteurs que vous aimez?
Alors, je lis des choses très différentes, mais peut-être
Ça, on le
en
voit dès le
écrivant.
début, on le voit dès le début dans les deux citations que vous mettez, puisqu'il y a Deleuze et Bérard, justement.
C'est ça, c'est très éclectique. J'ai lu, alors le nom va m'échapper tout
C'est
d'un
pas
coup, mais
grave, c'est pas une
Vie et
interro.
destin de Vassily Grossman, notamment, qui est un livre assez bouleversant, qui raconte justement à la fois. Le passage de la Seconde Guerre mondiale à l'extrémisation du stalinisme, etc., et qui est effectivement assez proche aussi de cette écriture très narrative et en même temps ancrée dans un contexte historique. Et c'est vrai que je pense que c'est un texte qui m'a beaucoup marqué dans l'écriture de ce roman. Ensuite, j'ai aussi lu un essai de Suzanne Sontag qui s'appelle Devant la douleur des autres, et ça raconte exactement cette question. De qu'est-ce qu'on fait d'une douleur après l'avoir photographiée et l'avoir racontée? Est-ce qu'elle nous habite pas quelque part? Et comment retrouver c'est la bonne distance? Mais c'est vrai qu'en général, disons que le point commun entre mes lectures, c'est que j'aime beaucoup les lectures assez transgressives qui sont. J'aime beaucoup Céline, j'aime beaucoup Patrick Chamoiseau, j'aime les écritures qui sont tactiles, qui sont sensibles, qui vont jusqu'au bout, en fait, qui ne transigent pas avec l'impératif de dire tout ce qu'il y a à dire, on va dire.
Alors, je suis pas sûr qu'on va écouter une chanson qui a eu jusqu'au bout, mais en tout cas, c'est l'heure de Kids Return et ça s'appelle All Yours Now. C'est toujours la relève et on est toujours avec Aja Razel pour Le Sens de la Fuite aux éditions Gallimard. Je vous ai commencé l'émission en vous demandant si vous pensiez que l'humanité se divisait entre ceux qui partent et ceux qui restent. Mais il y a une autre lecture possible, j'ai trouvé dans votre ouvrage, c'est un livre sur les familles, sur la famille et en particulier sur les pères. Il y a le père d'Alice, il y a le père de Bassan, mais il y a aussi le père d'Iliès. C'est très important les pères dans votre livre.
Oui, c'est vrai que c'est un roman qui questionne aussi ouais, l'héritage. De quoi on hérite, comment ces figures un peu peuvent à la fois nous pousser, nous retenir, comment on peut aussi se retrouver à peut-être faire les mêmes erreurs que nos parents en voulant les éviter. Et oui, je voulais, je pense que c'est un point commun avec mon premier roman, à la fois raconter la famille comme un lieu de transmission, mais aussi un lieu parfois d'incompréhension, et que mon roman peut-être amène mes personnages. À cheminer vers eux-mêmes, peut-être avec se réconcilier avec des parts d'eux-mêmes et aussi avec des membres de leur famille.
Alors vous écrivez aussi, mais les fuites finissent toujours par tracer un chemin. Est-ce que c'est ça le sens de la fuite, c'est de trouver le chemin?
Je pense que la fuite est souvent vue de façon négative. Et moi, je trouve que au-delà du renoncement de la peur, du fait de, voilà, de devoir fuir quelque chose, il y a aussi vraiment un mouvement vers quelque chose d'autre qu'on ne sait pas toujours. Parfois, c'est une révolution, parfois, c'est un amour, parfois, c'est une ville. Et comme Iliès avec Paname. Et voilà, je trouve que la fuite, ça fait partie du processus de mieux se connaître. Et donc, je voulais effectivement que mes personnages puissent raconter ça, l'importance de chérir ses errances parce qu'elles finissent par tracer un chemin vers soi et dans le monde.
Alors dans votre livre, on voyage à Beyrouth, enfin on est à Paris, on est à Beyrouth, on est aussi à Oran, à Alger. C'est aussi peut-être un portrait de ces sociétés, un portrait qui n'est pas forcément très optimiste. J'ai perdu la citation que je voulais vous redonner, mais peu importe. En gros, il y a un moment, il y a un personnage qui explique que la seule chose, voilà, c'est ça. Il connaît. Alors c'est justement comment? Je suis perdu. C'est Bassane qui parle et qui dit, qui écrit tout à la fin. Rien dans ce pays ne peut éclore, ni l'amour, ni la justice. Est-ce que vous êtes aussi désespéré? Enfin, c'était ça la question que je vais vous poser.
Ben, en fait, justement, ma fin, moi j'aime bien les fins assez ouvertes.
Oui,
Et c'est
oui.
vrai que chacun peut lire cette fin avec son point de vue et sa perception. Pour moi, c'est une fin qui est malgré tout optimiste parce que, même si évidemment chaque lecteur peut vraiment se faire son. Il y a les deux dimensions. Mais surtout, le message de Bassem, c'est aussi le message que ce n'est pas le dernier chapitre de la Révolution et que personne ne pourra enlever aux Égyptiens, puisqu'il est journaliste égyptien, qui ont défilé dans les rues leur slogan, personne ne pourra leur enlever leur désir de justice. Et donc c'est aussi un hommage au peuple, un hommage au peuple qui se révolte, aux personnes, individus aussi qui se révoltent dans l'intime. Et pour moi, oui, il y a une réalité qui est difficile, mais c'est un. Moi, personnellement, en tout cas, je vois vraiment les choses de façon optimiste, malgré l'adversité. Et voilà, je ne veux pas trop en dire, mais pour moi, Bassem, il va quand même
Non,
s'en sortir.
non. J'ai envie de vous demander, pour vous, l'optimisme est presque une obligation morale? On n'a pas le droit
Exactement,
d'être
exactement, en
pessimiste?
fait. Bah oui, en fait, je pense que surtout quand on est en situation de privilège, je sais pas si tous les personnages sont en situation de privilège, mais disons que Alice l'est, en quelque sorte, on a un devoir d'optimisme, parce que l'optimisme est aussi politique. Si on ne dit pas que, voilà, que ça peut aller mieux, on ne s'en donne pas les moyens aussi. Donc surtout quand on est en situation de privilège, je pense que oui, il y a cette forme de devoir. C'est un peu la quête d'Alice, finalement. C'est une quête très existentielle. Alice, c'est un personnage qui est contradictoire. Il y a même des lecteurs qui peuvent être agacés par moments parce qu'on ne la comprend pas complètement.
Elle
Et
peut
moi,
être
je voulais
très
que ce soit une
désagréable, hein.
intime. Ouais, c'est
Elle a un
ça.
côté pas sympathique, hein. Pardon.
Exactement. Je ne voulais pas une femme tout à fait enfin, lisse, agréable, mais que du coup, par sa personnalité, elle fasse de la place à d'autres personnages et parce qu'elle doute. Et qu'elle puisse nuancer sa propre quête, parce qu'elle la confronte à des quêtes beaucoup plus brûlantes. Celles d'Iliès et de Wassila sont des quêtes beaucoup plus pratiques. Et donc, à côté, effectivement, nous, notre pessimisme à nous de privilégiés, eh ben, il est un peu moins grave, on va dire.
Bah, dans votre roman, on voit en action quelque chose qu'on sait parfois, c'est qu'il y a ceux qui peuvent voyager, passer d'un pays à un autre, passer des frontières, en tant que Français, en tant que possesseur d'un passeport français, je vois très bien de quoi vous parlez. Et puis d'autres personnes qui sont empêchées, qui ne peuvent pas partir comme ils veulent, il leur faut l'argent, tomber dans des magouilles parfois, se faire avoir. Là, on le vit avec vos personnages.
Oui, c'est ça. Il y a une amie écrivaine qui a, je trouve, résumé la chose de façon très belle. Elle m'a dit, en fait, la couleur du passeport détermine le chemin et de cette fuite. Et c'est vrai que dans ce roman, il y a un petit peu ça. Il y a la question de la censure pour ceux qui restent, qui veulent faire leur métier de journaliste. Il y a la question des moyens d'existence quand on n'a pas, voilà, on est dans des conditions précaires. Et de l'autre, il y a cette quête existentielle de ce personnage, effectivement. Qui sème un peu le trouble par sa quête et par cette espèce de quête impossible d'être au plus proche de ce qu'on raconte, de sentir toutes les douleurs du monde et qui sont le miroir de la sienne en fait aussi. Elle va chercher son propre chaos dans le chaos des autres.
Et elle va le payer assez cher au cours enfin, elle va, on peut dire que, je sais pas si elle va le payer parce que ça sous-entendrait qu'elle le mérite. C'est pas ça que je veux dire. Elle va le rencontrer et ça ne va pas être si facile que ça. Je vais juste demander, l'arnaque turque à l'amour, elle existe vraiment?
Oui. Alors, c'est arrivé à des femmes marocaines, pour le coup. C'est arrivé à des femmes marocaines qui est vraiment le protocole que je décris est celui-là. Et oui, c'est assez tragique. Et en même temps, je voulais le raconter de façon un petit peu extravagante, parce qu'il y a quelque chose d'extravagant et de peut-être décalé dans ce désir-là. Et puis aussi qui nous ramène à des fuites qui ne vont pas forcément toujours en Europe, puisque l'imaginaire aussi se déplace. Et c'est vrai que la culture turque a une influence assez forte en Afrique du Nord. Donc c'était une manière de raconter aussi d'autres influences et d'autres envies d'ailleurs.
C'était une manière pour vous de déplacer le propos, parce que vous dites que ça s'est passé au Maroc, donc pas en Algérie. Enfin, vous...
Oui, non, pas en Algérie, non, ouais. Ça s'est passé au Maroc. Mais après, je ne sais pas, peut-être aussi en Algérie, mais en tout cas, oui, le fait divers duquel je me suis inspirée concernait les femmes
Et il
marocaines.
y a eu autant de femmes victimes?
Pas tant que ça, je pense que ça restait limité, mais oui, c'était, en tout cas, ça se comptait par centaines. Et c'est vrai que mon roman, ce qu'il raconte aussi, c'est la question de l'amour, c'est quand on fuit, est-ce qu'on a la place pour l'amour et est-ce qu'on est, est-ce qu'... enfin, et comment, en fait... l'attachement et le reflet aussi, l'attachement évitant et le reflet aussi de ce besoin de partir et comment il peut s'apaiser aussi à travers avec le temps en fait.
Vous avez une tendresse pour les personnages qui restent? Je pense par exemple au père d'Iliès. Parce que lui, visiblement, il reste parce qu'il a envie de rester. Il y a ceux qui restent parce qu'ils sont empêchés de bouger, mais lui, on sent qu'il n'a pas envie de bouger, qu'il est heureux de sa... Bah, peut-être pas heureux, mais en tout cas qu'il se satisfait de sa vie. Est-ce que vous les comprenez, ces gens-là?
Complètement, complètement. Je pense que j'ai beaucoup de tendresse, oui,
Ou
plus que pour le
pour
père
la mère
d'Iliès,
d'Alice aussi, d'ailleurs.
oui, pour la mère d'Alice, mais peut-être même plus pour Bassem, parce que lui, il a choisi vraiment de façon très profonde, voire idéologique, le fait de se battre jusqu'au bout. Et je pense que je trouve que c'est des positions admirables, parce que ça demande une force énorme de réussir à se satisfaire aussi de la vie. Telle qu'elle est, et en tout cas d'essayer de l'améliorer, mais sans cesse aller chercher mieux ailleurs. Et en même temps, je pense que, bah, en fait, c'est marrant, il y a des gens qui m'ont dit aussi qu'ils trouvaient que Bassem était plutôt, comment dire, enfin, avait des positions très fermées, peut-être démagogiques. Et je trouve que oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose, à un moment, ça peut devenir ça aussi, en fait, de refuser de voir le réel tel qu'il est. Et c'est toujours cette contradiction qui m'intéresse. C'est moins que des personnages lisses, vraiment de voir des personnages tiraillés entre des choses qui sont, oui, qui peuvent être contradictoires.
Eh bien, vous savez déjà, merci beaucoup. Vous savez déjà où vous allez partir, vous?
Ben, je suis à Marseille en ce moment, donc c'est
Bon.
déjà un nouveau déplacement
Eh
et
bien,
je continue
merci
ma
beaucoup à
tournée.
Jarazel d'avoir été avec nous. Je redonne le titre de votre livre, Le sens de la fuite, et c'est aux éditions Gallimard. Voilà,
Merci à vous.
voilà, merci beaucoup. C'était La Relève, c'était présenté par Christophe, c'était réalisé par Nina. Alors, cette émission et toutes les précédentes, vous pouvez les retrouver sur le site de radiocampusparis.org. On se retrouve dans 15 jours à 19h, c'est la matinale de Radio Campus Paris. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée à dans 15 jours. Merci.